Je ne reviens pas sur l'induction de l'acte. Je crois que je l'ai suffisamment vu. Je ne dis pas que vous l'avez comprise. Hein. Il faudra y venir plusieurs fois. Quand notre intelligence, dépassant les diverses expériences que nous avons de ces modes imparfaits vers le parfait, ce qui est en puissance vers ce qui est en acte, que l'intelligence saisit alors au niveau de l'être ce que c'est que l'acte, et par le fait même saisit immédiatement ce que c'est que la puissance. L'intelligence, à ce moment-là, saisit quelque chose qui est d'ultime dans l'ordre de l'être. Ce au-delà de quoi je ne puis pas aller. Donc, quelque chose qui est fin. Puisque le propre de la fin, c'est ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est ce qui s'impose comme absolu. L'être en acte apparaît tout de suite comme un absolu. Un absolu qui est fin. Télos. Qui est l'être considéré dans ce qu'il a de plus lui-même, et en même temps dans ce qu'il a d'ultime. Très difficile à préciser ce que c'est que l'être en acte. Nous ne sommes plus dans l'ordre de la signification, nous sommes au-delà de l'ordre de l'exercice. C'est un méta-exercice, si vous voulez, comme on dit. C'est un exercice qui est au-dessus, puisque c'est ce qui est la raison ultime de tout exercice et de toute opération. Toute opération est ordonnée vers l'acte. Et l'acte est quelque chose de plus. Puisque l'opération est au niveau vie, quand il s'agit d'opération vitale, ou au niveau devenir, mais qui n'est pas l'être. Donc, c'est un au-delà de l'exercice, un au-delà de la forme, un au-delà du devenir. C'est l'être dans ce qu'il a le plus lui-même et c'est l'être dans sa perfection dernière. C'est en ce sens qu'on peut dire que l'acte sépare. L'acte ne spécifie pas, mais l'acte sépare. Vous voyez, là, je ne précise pas ce que c'est que l'acte. Je vois la conséquence. Une réalité qui est parfaitement en acte est séparée des autres. C'est donc la transcendance dans l'ordre de l'acte. Au fond, c'est cela, l'être en acte. C'est la transcendance dans l'ordre de l'acte. Ce qui le met au-delà, qui le sépare des autres. Cet être en acte qui est au-delà des autres, au-delà de tout le reste, en tant qu'il est en acte, il est un absolu. Je dis bien, il est un absolu. Je peux le saisir de diverses manières, mais c'est toujours cela. Je vois tout de suite là la différence avec le point de départ qui regardait les différentes modalités. L'être en acte n'est pas une modalité. L'être en acte s'impose comme une fin. Cet être en acte, par rapport à l'être en puissance, c'est la première considération que je dois faire, cet être en acte, par rapport à l'être en puissance, et premier. C'est-à-dire qu'il possède une antériorité absolue. Cet être en acte n'est pas relatif à l'être en puissance. c'est l'être en puissance qui est relatif à l'être humain. Tandis que les deux états que je saisissais antérieurement impliquaient quelque chose qui était relatif l'un par rapport à l'autre. Ceci, c'est très important à saisir. Comment l'être en acte se saisit par lui-même, tandis que l'être en puissance se saisit par l'être en acte. Donc, il y a, par le fait, une antériorité de l'être en acte au niveau de l'intelligibilité. L'être en acte se saisit par lui-même. L'être en puissance se saisit toujours par rapport à l'être en acte. Je ne saisis jamais l'être en puissance par lui-même. Impossible. Vous n'avez jamais saisi un être en puissance par lui-même. Vous ne pouvez pas. Vous saisissez toujours par rapport à autre chose. Relativement à l'être en acte. Tandis que l'être en acte est saisi par lui-même. Donc il est premier selon l'intelligibilité, selon la connaissance. Également, il est premier. Selon l'ordre substantiel de l'ouvia, il est premier. C'est-à-dire selon l'ordre de perfection, il est premier. C'est très vrai, parce que c'est quelque chose d'ultime auquel on ne peut rien ajouter. Donc il est premier du côté substantiel, point de vue de la réalité. Il peut exister séparé indépendamment des autres. Alors que la puissance n'existe jamais séparé en dehors des autres. Mais cependant, alors c'est là où il y a quelque chose de très particulier, cependant, dans l'ordre du devenir, non plus dans l'ordre de l'être, dans l'ordre du devenir, l'être en puissance est premier quand il s'agit d'un devenir de l'individu. Quand il s'agit d'un devenir de l'individu. En effet, nous avons notre propre expérience, nous avons tous commencé dans un état embryonnaire. Même si je n'en avais pas l'expérience actuellement, je sais que j'étais un petit embryon. Une bonne contemplation pour regarder l'humanité. J'étais un état embryonnaire, j'étais dans un état d'imperfection. Et puis, progressivement, je suis devenu un être parfait, regardez-moi. Je suis un être parfait. Donc on est un être séparé des autres. Et il a d'abord été un être imparfait, en puissance. Dans l'ordre du venir, l'être en puissance est premier. Mais un devenir de l'individu, pas le devenir de l'espèce, nous dit Aristote. Là, ça pose tout le gros problème de l'évolution. Parce que pour celui qui accepte l'évolution, vous comprenez, il y a un devenir selon l'espèce. Forcément, on passe d'une espèce à l'autre. Donc le devenir est à l'intérieur de l'espèce. Et si le devenir est à l'intérieur de l'espèce, on reconnaît qu'une espèce imparfaite tend vers une autre espèce supérieure. Et donc l'espèce inférieure, l'espèce imparfaite est antérieure. L'espèce en puissance est antérieure. Pour Aristote, c'est impossible. Alors là, ce sera un problème très intéressant. Vous avez déjà touché l'évolution. C'est un problème très, très intéressant à bien saisir. Que, en effet, l'antériorité de l'être en acte va se retrouver dans le devenir à l'égard de l'espèce. Pourquoi? Parce que, justement, l'espèce comme telle est au niveau de l'intelligibilité. Vous n'avez jamais vu une espèce exister toute seule. C'est ça ? Vous êtes un individu, mais vous n'êtes pas une espèce. Donc c'est au niveau de l'intelligibilité. Or, au niveau de l'intelligibilité, c'est pas mettre en acte pour un être. Vous voyez ? Et tout l'équivoque est là, je crois, constamment, au point de vue de l'évolution. C'est qu'il y a un passage de l'intelligible au réel et une confusion entre les deux. Autrement dit, on est en présence d'une certaine forme d'ontologie. On ne croit pas que l'évolution ait pu naître dans une pensée réaliste. Elle ne peut naître que dans une pensée idéaliste, avec l'ontologie. Donc, je peux préciser qu'il n'y a qu'un seul domaine où l'être en puissance est premier, un seul domaine, le devenir individuel. Le devenir individuel du vivant. Parce que le devenir individuel en dehors du vivant, je ne vois pas très bien ce que c'est. Mais le devenir individuel du vivant. Alors là, c'est vrai. Alors vous voyez, c'est très curieux. Parce que quand il s'agit alors du vivant, il y a quelque chose qui est inversé au point de vue métaphysique par rapport à l'aspect métaphysique, priorité de l'acte sur la puissance. Le vivant comme vivant, dans son propre devenir, s'oppose à ce qui est le plus fondamental en métaphysique. Nous avons tous vécu ça. Hein. Nous avons été une objection radicale par rapport à la priorité de l'être sur la puissance, sans le savoir. Objection de conscience par rapport à mettre en acte la puissance. Vous voyez, c'est vrai. On a dit ça, mais on a tous été dans cet état embryonnaire antérieur à l'état qui viendra après. Et donc, ça soulève tout un problème que le point de vue de la vie a quelque chose d'irréductible par rapport à l'être. Un secteur, pas tout, hein, mais un secteur, le secteur du devenir. Et je crois que c'est très important, ça. Parce que le vivant biologique est toujours en devenir. Donc c'est le vivant biologique, c'est pas la vie tout court. Hein. C'est pas la vie tout court, c'est pas la vie de l'intelligence. L'intelligence n'est jamais en obstacle avec le point de vue de l'être, avec le point de vue métaphysique. Mais la vie biologique, ça. La vie biologique a un domaine tout à fait particulier qui ne s'explique pas par le point de vue de l'être. Quelque chose de particulier. Et ça, c'est la restriction d'Aristote. Aristote avait fait traiter le point de vue du vivant en comprenant qu'il y avait dans le vivant quelque chose de sui generis. Et ce quelque chose de sui generis, on voit tout de suite priorité de la puissance sur l'acte dans l'ordre du devenir de l'individu. Oui, ça irait de soi, ça va de soi. Ça, surtout avec l'antériorité de la substance. Ça va de soi. On n'aurait pas besoin d'y revenir, parce que c'est presque une répétition. Mais parce qu'il y a ça, alors on est obligé d'être très attentif. Il y a un domaine, je crois que ça a beaucoup, beaucoup de conséquences, et ça explique pas mal de choses. Il y a un domaine dans lequel le vivant, comme tel, l'individu vit, le vivant, dans sa vie biologique, c'est affront à l'être. Oui. C'est peut-être à cause de ça, vous voyez, que quand je me place du côté vivant, je n'aime pas le point de vue métaphysique. Quand je me placerai le point de vue purement génétique, je ne viendrai pas, je dirais non, non, ça ne va pas, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'au fond, c'est au contraire les deux aspects qui sont importants à voir. Il y a quelque chose dans l'aspect génétique que le métaphysicien ne pourra jamais. Parce que le métaphysicien va traiter lui vers la finalité. On va dire, mais ne regardez pas l'aspect génétique. L'aspect génétique a un développement qui lui est propre et que je ne peux donner que descriptivement. Parce que c'est la primauté de la puissance sur l'acte. Et donc que je ne peux donner qu'une façon descriptive. Je ne peux pas réinventer l'aspect génétique. Je ne donne qu'une façon. Alors, ça explique, vous voyez. Alors, vous avez ça du côté psychologique et vous avez ça du côté biologique. Parce que du côté psychologique, il y a aussi un aspect génétique. Du côté biologique, c'est quand même très important. Parce qu'il y a quelque chose donc d'irréductible, qu'il faut souligner. Oui, et je crois que c'est ça qui permet de comprendre que la philosophie du vivant est irréductible au devenir et à l'être. Il y a quelque chose de propre dans la philosophie du vivant. C'est tout à fait l'aspect génétique. Oui, c'est les deux. Hein. C'est au fond l'aspect génétique à cause de l'immanence.
C'est pas le génétique comme tel.
C'est pas le génétique comme tel, mais c'est le génétique dans l'ignorance. C'est le vivant. C'est pour ça que je dis le vivant. Vous comprenez ? C'est le génétique comme tel, c'est-à-dire c'est le génétique comme tel, c'est-à-dire on pourrait préciser, parce que dans le devenir, vous voyez, quand vous précisez ce que c'est que le mouvement physique, vous dites l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Vous montrez que l'acte est enveloppé de la puissance. Donc si l'acte est noyé dans la puissance, c'est déjà ça. Oui. Mais dans le génétique, dans le devenir physique, ça se voit beaucoup moins. Parce que le devenir physique est toujours... Tandis que le devenir biologique, celui-là, s'observe. Oui. Il s'observe, mais le devenir génétique, le devenir physique est beaucoup plus difficile à observer. Oui. C'est la chimie. Là, c'est très très complexe. Au point de vue du devenir, parce que c'est beaucoup plus la coupe directement de la réalité. Alors, ceci, c'est très important à comprendre. Donc, il y a quelque chose d'unique. C'est le devenir de l'individu, et le devenir de l'individu, la puissance est première, et donc je dois respecter que le devenir de l'individu doit se décrire par lui-même en vue de la finalité. Mais la finalité n'explique pas. Il y a un devenir physique, un devenir biologique, pour chaque être qui lui est particulier, un développement génétique. Et ceci est vrai du point de vue biologique et vrai du point de vue psychologique. Oui. C'est ce qui donnerait raison à certains aspects de la psychologie génétique. Il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose de vrai. Quand ça veut tout dire, c'est absurde, mais quand ça accepte uniquement un aspect particulier, il y a quelque chose de juste. Nous sommes quand même conditionnés par tout notre passé. Ça, c'est sûr. Nous sommes conditionnés par la première éducation que nous avons reçue. Nous sommes conditionnés par le premier milieu que nous avons reçu. C'est sûr. Je n'ai pas le droit de dire c'est déterminé, ça c'est fini. Non, je n'ai jamais le droit de dire ça. Parce que cet aspect génétique, psychologique, il est particulier. Et même quand, vous voyez, si j'étais parfaitement finalisé, pour la résurrection des corps, l'aspect génétique n'existera plus. Et la psychologie n'existera plus, parce que je serai parfaitement déterminé par le point de vue de la vision béatifique. Mais tant que je n'ai pas la vision béatifique, ma finalité ne m'actue pas entièrement. Et donc, il y a toute la place du génétique qui demeure. Bon, je passe tout de suite à un autre aspect qu'on va développer un peu plus, parce que c'est très important. C'est de comprendre les diverses modalités de l'acte. Vous allez saisir, j'espère. Chez Aristote, c'est donné d'une façon très embryonnaire. Et je crois que nous devons préciser là ce qu'Aristote dit. Et nous pouvons tout de suite comprendre que l'être en acte, l'être en puissance, qui est quelque chose de si difficile à saisir, comme un instantané de la pensée. Par moment, je le saisis, puis dès que je veux l'expliquer, je n'arrive plus. Parce que c'est justement pas saisi qualitativement. Il n'y a pas de fluidité de l'acte. Il n'y a pas de signification de l'acte. Je suis dans un domaine au-delà. Nous y reviendrons là-dessus, parce que ça, je crois que c'est quand même très important. Au point de vue de la connaissance, de comprendre que je suis au-delà du domaine de la signification. La signification n'explique pas l'acte, si vous voulez. La signification explique la forme, mais n'explique pas l'acte. L'acte est au-delà de ce domaine de la signification. L'acte présuppose, mais il est au-delà. Alors, quel est-il ? Je reviens toujours à cette interrogation. Quel est-il ? Quel est ce domaine particulier de l'acte ? Alors, avant de venir à cela, je regarde tout de suite que la division, c'est l'être qui est divisé. Ceci est vu du point de vue de l'être, se divise en être en acte, en être en puissance. cette division va tout de suite se présenter à moi selon diverses modalités. Autrement dit, vous comprenez bien, autrement dit, j'essaie de comprendre tout le rayonnement de cette division sur le reste de la philosophie. Toutes les parties de la philosophie vont être progressivement illuminées dès que j'arrive à distinguer l'être en acte et l'être en puissance. Autrement dit, j'ai un panorama extraordinaire. Et le panorama. Quand je suis arrivé là, c'est extraordinaire. Regardez le panorama. C'est inouï. Toute la philosophie est éclairée d'une façon nouvelle. Vous allez voir. Toute la philosophie est éclairée d'une façon nouvelle. Alors, toute une partie de la philosophie antérieure à ça, qu'est-ce que c'est? C'est la substance. La substance en acte, la substance en puissance. C'est vrai. Mais une petite distinction est très importante. La substance peut être en acte et peut être en puissance. Qu'est-ce que c'est que la substance en puissance? C'est la substance capable d'exister. Eh bien, je suis donc en face d'une substance essence. Et la substance en acte, ah oui, c'est le fait d'exister. Le fait d'être, c'est l'essai. L'essai vient actuer la substance. Et c'est vrai. C'est pas de laisser d'actuer la substance. Parce que la substance a ceci de particulier, c'est qu'elle est capable de subsister. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'exister par elle-même. Donc la substance existe par elle-même. Elle subsiste. La substance, capacité d'exister, subsiste. Vous voyez bien, premier coup, si vous voulez, dans cette très, une fois que j'ai saisi l'être en acte et l'être en puissance, première réflexion, je vois tout de suite que le problème de la substance va prendre une nouvelle modalité, un nouveau regard. Alors, comprenez bien, c'est pas la substance principe, c'est pas le tiesti de l'être, parce que le tiesti de l'être, il n'est pas éclairé par un autre tiesti. Autrement, à ce moment-là, il serait relativisé. Mais c'est le pose de la substance. La substance, comment va-t-elle exister? La substance est dans deux états différents, si vous voulez. Elle est celle qui est capable d'exister, celle qui existe. Et la substance qui est capable d'exister, c'est l'essence. Et la substance qui existe, elle existe de cette manière tout à fait particulière, c'est qu'elle subsiste. La subsistance de la substance, c'est pour expliquer l'être en acte de la substance. Bon, première modalité. Deuxième modalité. Qu'est-ce qui vient après? C'est le problème, je vais vous prendre tout de suite, le problème éthique. Dans le problème éthique, que vient apporter l'être en acte et l'être en puissance? C'est l'être en acte en éthique, c'est la contemplation. La contemplation du bien. Bien premier. Je suis capable de contempler le diabolique. Pardon, moi je me trompe. On est en pied ici. On est à l'intérieur de la contemplation. Et je suis capable ici. La capacité de contemplation regarde au point de vue du bien, capable d'atteindre le bien. Je suis capable de le contempler, de le gagner. Contemplation et un livre. Alors là, vous voyez bien, ce regard sur l'éthique, cette division de l'être en acte et d'être en puissance, me permet de saisir tout de suite qu'est-ce qui actue l'esprit. C'est le bien. Le bien, c'est l'acte de l'esprit. De l'esprit vu dans sa capacité d'aimer. C'est donc une seconde modalité de l'acte. La première, c'est donc l'essai. La seconde, c'est le bien. Le bien, c'est l'être en acte. Et l'essai, c'est l'être en acte. Mais l'essai, c'est l'être en acte du côté de la substance. Et le bien, c'est l'être en acte, c'est, je veux dire, l'essai, c'est l'être en acte du côté de la substance, et le bien, c'est l'être en acte dans, du point de vue de l'esprit. En tant qu'il y a en moi, la boule est six, capacité d'intelligence, la capacité de l'esprit. Aller plus loin et regarder non plus ici le point de vue du bien, mais le point de vue du vrai. Je peux chercher à saisir ce que c'est que le vrai. Et je suis capable d'être attiré vers lui. Donc c'est point de vue de l'intelligence. L'intelligence qui est capable d'atteindre le vrai. Donc, vous avez encore ici la distinction entre l'être en acte et l'être en puissance, vu du côté critique. En critique, voilà. Tandis que pour le bien, c'était du côté philosophie éthique. Troisième modalité. Quatrième modalité. Opération vitale. Puis capacité de voir, d'entendre, etc. Ici, je suis au niveau, non plus, c'est au niveau de la vie. Si je regarde la distinction de l'être en acte et d'être en puissance au niveau de la philosophie du vivant, je vois tout de suite qu'il y a en moi les opérations vitales et ma capacité d'opérer. C'est évident. Et je suis devant une autre modalité. Je peux regarder encore dans le niveau 5. Je regarde en philosophie de la nature. Alors je suis en face du mouvement. Le mouvement est acte du corps. Voilà cinq modalités. Les cinq modalités de l'être en acte, c'est l'essai, le bien, le vrai, les opérations vitales, le mouvement. Si vous êtes très attentif à la philosophie d'Aristote, vous voyez que vous trouvez ça, c'est sûr. Mais ici, je le fais indépendamment de la philosophie d'Aristote. Hein. Comprenez-vous ? Je le fais indépendamment de la philosophie d'Aristote. J'essaie de réfléchir si vraiment la philosophie de l'être en acte et d'être en puissance, la saisie de l'être en acte et d'être en puissance, et le sommet métaphysique, nécessairement, dès qu'on éclaire un point de vue, tout le reste s'illumine. Je dois donc regarder les réfractions, les modalités de cette distinction de l'être en acte et l'être en puissance dans les diverses parties de la philosophie. Première partie en philosophie première. Oui, on va écrire ça en rouge, que vous voyez bien. Première partie, la philosophie première. La philosophie première dans sa première partie, la substance. Deuxièmement, en éthique. toute l'éthique est éclairée. L'éthique est commandée par le bien. C'est le bien qui commande l'éthique. Et donc il faut comprendre que le bien, c'est l'être en acte par rapport à l'esprit, par rapport à la volonté, l'esprit en tant que volonté. Le vrai, ça c'est la critique. La critique regarde le point de vue du vrai, la vérité, le point de vue de l'intelligibilité. Philosophie du vivant. Et philosophie de la nature. Je retrouve donc cette distinction, cette modalité de l'être en acte et en puissance, dans toutes les autres parties. Ah, j'ai dit toutes les autres parties, attention, je n'ai pas énuméré toutes les autres parties. Donc je dois les énumérer et montrer que j'ai raison de ne pas... Télescoper une ici. À côté de l'éthique, il y a le facere. Et à côté de l'éthique et du facere, il y a la philosophie politique. Alors pourquoi, ça c'est une question intéressante, pourquoi la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance n'inclut pas directement en philosophie politique et en philosophie du facture. Autrement, j'aurais une nouvelle modalité. Alors, si vous avez une autre modalité, vous trouverez. Alors évidemment, je peux ajouter une nouvelle modalité. Philosophie du facture, ah mais oui, il y a le beau. Ah oui. Ah, j'avais oublié. On oublie toujours le beau. Et puis la philosophie politique, mais oui, il y a le bien commun. Donc, vous auriez cette modalité. Ah, c'est merveilleux, c'est beaucoup plus beau, cette. Cinq, c'est mieux. Mais sept, c'est très bien. Alors, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux donner ces sept modalités? Ce serait intéressant, du reste. Hein? Parce que c'est vrai que toute la philosophie du facere est commandée par le beau. C'est vrai. L'œuvre d'art doit être belle. Et l'œuvre d'art, c'est le facere maximum, c'est le facere par excellence. Donc alors, c'est le beau, c'est ce que dit Maritain. Maritain dit ça. Hein. Là, je suis tout à fait avec Maritain quand je dis ça. Alors, est-ce que je dois accepter cette position de Maritain, qui est intéressante? C'est bien évident qu'elle est intéressante. Est-ce que je dois l'accepter? Si vous voyez, c'est... un disciple de Maritain mettrait tout de suite le beau là, à côté du bien. Je ne l'ai pas fait, pas parce que je ne suis pas d'ici, mais c'est parce que je crois qu'on ne doit pas le faire. On va essayer d'y réfléchir. Et puis, un disciple de Maritain, le bien commun, c'est très important, le bien commun. Mais en politique, le bien commun est une autre forme de l'art. C'est le bien commun qui commande tout. Alors, est-ce que j'ai ces deux modalités-là? Oui, oui. Non, ça c'est les données-là. D'accord. Non, non, c'est du corps. C'est, là comme, c'est une sous-distinction. Mais ce n'est pas une distinction première, hein, faisons attention. Ah, mais une distinction, ce monde, il y en a des quantités. Hein. Vous voyez, dans les opérations vitales, hein, vous avez toutes les opérations vitales. Non, alors, si on prend je prends les distinctions types. Hein, parce que c'est ça qui m'intéresse pour avoir une mode. Une distinction qui commande à d'autres distinctions. Ah oui, non, non, parce que faisons attention, hein, c'est que la forme n'est pas l'acte. La forme n'est pas l'acte. Saint Thomas le dira analogiquement, mais il dira ça analogiquement, mais c'est pas l'acte. Tandis que le mouvement est l'acte de ce qu'est la puissance. Le mouvement est vraiment une forme particulière de l'acte, tandis que la forme n'est pas une forme particulière de l'acte. Alors là, vous ramènerez l'acte à la forme, vous voyez? Ça ne va plus. Vous ne pouvez pas ramener l'acte à la forme. Vous diriez donc, alors à ce moment-là, on reprendrait, si vous voulez, la distinction de mettre en acte les impuissances en disant mais ça vient du côté de la forme. Non, c'est pas du côté de la forme. Tandis que là, il y a vraiment essai, c'est irréductible à la forme. Le bien irréductible à la forme. Le vrai irréductible. Les opérations vitales et le mouvement irréductible. Je suis au-dessus. C'est vraiment des modalités de l'acte. Et c'est des modalités de l'acte immédiates qui sont immédiatement reliées à l'acte. Selon cinq modalités différentes. Vous voyez ? Alors, est-ce que je dois ajouter le beau ? Est-ce que je dois ajouter le bien commun ? Enfin, il faut se poser la question, hein, parce que c'est important au point de vue métaphysique. C'est important au point de vue métaphysique de savoir si je dois poser cette question-là, si je dois découvrir dans le beau et dans le bien commun deux autres modalités. Et on doit le faire. Si on ne le fait pas, on ne va pas jusqu'au bout. Dans le livre que j'ai écrit sur le point de vue métaphysique, je ne l'ai pas noté. Je le referai maintenant, je le noterai. Et je le mettrai. Pour vous montrer qu'on progresse tout le temps. Et qu'on ne doit jamais s'arrêter. Il faut toujours aller plus loin. Parce qu'il y a des choses, que c'est vrai, à la première vue. Je me suis dit, cinq modalités, ça va, c'est très très bien, c'est très net, c'est pas la peine d'en mettre d'autres. En mettre d'autres. Et donc il faut justifier pourquoi on ne le met pas. Il faut toujours l'aspect critique qui est là qu'on parle. Alors de fait, les deux autres, ce serait ça. Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire ? Je vous interroge pour que vous deviniez un peu. Hein. Qu'est-ce qu'il peut dire pourquoi le beau et le bien commun ne sont pas des modalités immédiates de l'acte, hein, irréductibles ? Autrement, je mettrais la forme, je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi je ne peux pas mettre le beau et je ne peux pas mettre le bien commun ? C'est intéressant, ça. Oui ? Dites. On va dire, expliciter un peu, parce que je crois que pour beaucoup, ça n'a pas été éclairant. Non, je suis d'accord, c'est ça le point de vue, c'est ça à cause de ce point de vue-là. C'est que le beau est immanent. Hein, mec. Oui. Ah non, et puis, pour le Krum, Platschet Visu, le beau, c'est ce qui plaît à la vue. C'est la définition plus belle que dans Saint Thomas du Beau. Hein. Le beau, c'est ce qui plaît à la vue. Très beau ça, pas de chaîne visée. Hein? Je ne dirais pas que c'est subjectif, je dirais que c'est immanent. C'est pas la même chose, vous voyez. Il y a une objectivité dans le mot. Il y a une objectivité. Tout le monde n'est pas sensible à ça, mais c'est alors c'est pas étonnant, vous voyez, il y a pas de choses. C'est pas parce que tout le monde ne découvre pas l'acte et la puissance que c'est subjectif. N'est-ce pas? Alors il y a des quantités de gens qui ne saisissent pas ce que c'est que le mot, et qui derrière l'hippopotame. Alors, ils ne saisissent pas. Vous voyez ? Donc, alors, ne saisissant pas, très bien, ils passent au chemin. D'autres saisissent. Vous voyez ? Alors, c'est pas. C'est immanent. Le beau est immanent. Il est posé, hein, à l'intérieur de l'intelligence. Vous voyez ? Et c'est parce qu'il est posé à l'intérieur de l'intelligence que pratiquement, il se ramène à une forme. Vous voyez ? Et c'est pour ça que la forme n'est pas une modalité de l'acte. Quand vous définissez le beau, quand vous définissez le beau, la splendeur de la forme, parce que je crois que c'est la meilleure définition du beau. Le beau, c'est la gloire de la forme. Le beau, c'est la splendeur de la forme. Je ne peux pas définir le beau en disant que le beau, c'est la splendeur de l'être. Certains l'ont dit. Monsieur Decorte, il dira ça, il dira que c'est la splendeur de l'être. Et Maritain serait tendance de dire ça, c'est que le beau, c'est la synthèse des transcendentaux. Alors, si c'est la synthèse, et avant, avant Maritain, c'était le père Garrigou-Lagrange qui l'avait dit. Et Maritain l'a pris au père Garrigou-Lagrange. C'est toujours comme ça, les bêtises, ça se répète. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit d'une vérité, on ne la répète pas. Parce que dire, je le regrette, le père Garrigou, maintenant, dans le ciel, il comprend bien. dire que le mot, la synthèse des transcendentaux, c'est impossible, on ne fait pas de synthèse des transcendentaux. Les transcendentaux, c'est la convertibilité des notions avec l'intellect. Il n'y a pas de synthèse. Donc ça n'a pas de sens, dire synthèse des transcendentaux. Et Marita a répété. Oui, parce que car le goût est son maître. Oui, il ne faut jamais répéter ce qu'un maître dit. Jamais, si on n'a pas compris. Si on a compris, c'est autre chose. On le répète autrement. On ne fait pas autrement, mais autrement, parce que c'est très gênant pour le maître, vous comprenez. Garibou aurait dit ça, ça aurait passé. Quand Marita le dit, elle rompesse. Alors c'est beaucoup plus dit avec splendeur. Alors c'est parce que c'est dit avec splendeur, ça devient quelque chose d'outrageant, aux oreilles spieuses, n'est-ce pas ? Aux oreilles spieuses métaphysiquement. Alors c'est bien outrageant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Alors. La synthèse des transcendentaux. Mais non, le mot ne peut pas être la synthèse des transcendentaux. Il n'y a pas de synthèse des transcendentaux. Donc, le mot ne peut être que la splendeur de la forme, je crois. C'est beaucoup plus grand, du reste. Vous voyez, parce que l'homme est capable de réaliser quelque chose de beau. Il peut faire une œuvre belle. Donc, s'il peut faire une œuvre belle, l'homme ne peut pas faire un nouvel être. Mais il peut faire une nouvelle forme. Et donc il peut inventer une beauté nouvelle. Si l'homme pouvait faire un nouvel être, alors à ce moment-là je comprendrais qu'il peut faire une œuvre belle. Mais l'homme ne fait pas une œuvre, ne fait pas un nouvel être, il fait une nouvelle forme. Et en faisant de nouvelles formes, il fait une œuvre nouvelle. Et quand cette forme est parfaitement réussie, il fait donc quelque chose qui est beau, au sens très très fort, une œuvre belle, c'est la splendeur de la forme. Le beau est parfaitement beau dans mon intelligence. La formalisation du beau, elle est dans l'intelligence. Le beau, c'est ce qui plaît. Mon intelligence est liée à l'amour, c'est bien évident. Mais le beau n'est pas premièrement dans la réalité. C'est pour ça que l'œuvre d'art est plus belle que la nature. Ça fait hurler quand on dit ça, pour les mères de famille, mais c'est quand même juste. Tu vois ? Oui, parce que l'œuvre d'art a une beauté que n'a pas la nature. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir quelque chose qui vient compléter, achever. La beauté n'est pas pleinement réalisée dans la nature. Comme la vérité n'est une vérité formelle que dans l'intelligence, de même au point de vue. Mais comme la vérité s'enracine directement sur l'être, il peut y avoir une forme d'art là. Tandis que le beau, lui, s'enracine sur la forme. Donc, je ne peux pas dire que le beau est une modalité particulière. Ça, c'est très curieux. Vous voyez que le facere va échapper à l'influence directe de la distinction d'être en acte et en puissance. Très intéressant. Et quand il s'agit du bien commun, est-ce que le bien commun est une modalité de l'art? Pourquoi le bien commun n'est-il pas une modalité de l'art ? Irréductible, au reste. Qu'est-ce qu'il peut dire ça ? Alors que je dis que le bien est une modalité de l'art. Pourquoi le bien commun n'est pas une modalité particulière de l'art ? Parce qu'il est commun. Parce que lui aussi est immanent. Il est immanent à la communauté. Mais c'est très curieux, c'est le côté acte, il sépare. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors vous avez repris ça, vous avez tout de suite vu l'acte. L'acte sépare. Et parce que l'acte sépare, l'acte ne peut pas être dans l'immanence, comme le beau et comme le bien commun. Il sépare. Et donc il n'y a pas deux modalités nouvelles, vous en avez que cinq. Et je crois vraiment, ça je vous demande d'y réfléchir, parce que c'est très important ce qu'on voit là. Ça a d'immenses conséquences. Vous voyez ? Vous voyez tout de suite que ces deux parties de la philosophie, le Thatcher et la philosophie politique, ne sont pas immédiatement sous la mouvance de la métaphysique de l'acte et de la puissance, de l'être en acte et en puissance.
N'empêche que le Thatcher peut se réduire à l'opération vitale en tant que...
Il se réduit. Mais c'est... Les réductions, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme la forme. La forme aussi se réduit à l'acte. Ou plus exactement, la forme implique une certaine modalité d'acte. Tout à fait d'accord. Mais la forme n'est pas l'acte. Oui. C'est comme ici l'âme. Alors, vous pouvez dire l'âme. Vous voyez, il y a encore l'âme. Là. Mais l'âme, elle touche l'acte parce qu'elle est substance. Alors, c'est comme ça qu'elle subsiste et qu'elle implique l'essai. C'est vraiment la substance qui est directement en relation avec l'essai. C'est pas l'âme. Et alors c'est la même chose pour la forme. C'est le mouvement qui est un acte, une modalité particulière de l'acte, mais pas la forme comme telle. La forme qui, comme telle, détermine la matière. Mais elle ne sépare pas. C'est très curieux. L'acte sépare. Il faut bien saisir ça. Alors vous avez, je crois, y réfléchissez-y, il y a cinq grandes modalités de l'acte. Et par le fait même, cinq modalités de la puissance. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous aide à mieux comprendre ce que c'est que l'acte. Si vraiment il y a ces cinq modalités, nous allons maintenant regarder chacune de ces modalités. Et en regardant chacune de ces modalités, nous allons mieux comprendre ce que c'est que l'acte. Et comme c'est si subtil, vous voyez, l'acte échappe, hein, ça échappe à une connaissance qualitative. Alors nous regardons les modalités, parce que c'est plus facile. Ça va taper.